nouvelle saison, nouvelles préoccupations. Depuis 10 ans, Studio Zef a toujours été la chambre d'écho d'initiatives locales et citoyennes et des combats pour l'environnement. La chose commune est le lieu de rencontre de ces deux combats. Cette année, nous allons vous parler de ce qui fait avancer le combat écologique et environnemental en mettant en lumière des acteurs locaux et citoyens, des personnes, collectifs, associations, collectivités territoriales qui proposent des solutions adaptées à notre cadre de vie et aux problématiques urbaines et périurbaines. Tous les sujets seront sur la table, agriculture, énergie, biodiversité, alimentation, pollution et déchets. Car notre environnement doit être la chose commune. Deuxième émission, toujours à la rencontre d'acteurs locaux qui offrent des solutions innovantes pour produire et consommer responsable et écologique. L'agriculture biologique est une réponse extraordinaire à la crise environnementale actuelle, particulièrement quand elle est réfléchie et aménagée localement et qu'elle s'adapte au territoire qu'elle choisit de nourrir. La preuve en est avec le reportage de cette semaine. Bonne écoute.
Bonjour, oui, je m'appelle Harry, je suis installé à la Rabière depuis janvier 2019. Je sors de la couveuse du lycée horticole. C'est mon exploitation, une nouvelle exploitation dans le paysage de Blois. Et voilà, l'idée, c'est pouvoir vendre mes légumes sous forme de panier. Donc à droite, là, c'est les pommes de terre. À gauche, on a rutabaga, betterave. Donc trois sortes de betteraves, la crapaudine, la betterave d'Égypte et la betterave shioga. Donc ensuite on a les radis d'hiver, qui est appelé radis d'hiver. Donc on a les fameux radis noirs qu'on va consommer tout l'hiver. Plus cette année moi j'ai fait des radis japonais. Donc c'est des radis japonais longs. Donc on a du rouge, on a du blanc et on a du bleuté. Donc sur la droite on a les courgettes d'automne. Et donc voilà, avoir un peu de courgettes pour faire les premières soupes. On a une petite planche d'épinards qui va être récoltée la semaine prochaine. J'attends le retour des vacances des clients. Voilà pour démarrer l'épinard. Sur la gauche, on a les navets. Donc là pareil cette année aussi une belle production de navets. On a été obligé de mettre les voiles anti-insectes parce qu'on a eu un été assez chaud et assez sec et donc pas mal d'insectes qui se sont invités. Donc on a mis les voiles anti-insectes pour nous prémunir des vers et autres dans les navets, et puis ça a très 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 bien marché.
Je vois au fond vous avez pas mal de poireaux aussi, ouais. C'est un peu la star de l'hiver, le poireau.
Ça va être la star de l'hiver, donc il se fait attendre. Je le fais un peu exprès parce que il me reste encore de la tomate, du poivron, de l'aubergine, mais voilà, il va arriver la semaine prochaine. Je sais que mes confrères ont déjà sorti leurs poireaux, mais ouais ça va être la star de l'hiver. Il y a on a bien demi-hectare. On a un champ de carottes. Là, cette année aussi, on a planté 500 mètres carrés de carottes avec une très belle carotte. Donc on est sur des terres à légumes raves. J'en fais le constat aujourd'hui que les anciens avaient raison. C'est vraiment une très 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 belle terre. Et voilà, pas un caillou, on sort des carottes, mais magnifique. Donc à côté on a des panais. Pareil aussi, des très beaux panais. Cette année, c'est une belle année en courge, avec 5-6 variétés de courges différentes. Donc de quoi substanter les papilles de nos clients. On est encore sur les poivrons, aubergines et les tomates de contre-saison. Cette année, on a fait un petit peu plus de 3000 pieds de tomates. Donc, on a eu une très belle saison de tomates. Et donc là, on démarre tout doucement sur les produits d'hiver. On a les salades, on a les blettes, les choux raves qui sont déjà mis en place. Et à venir, on va avoir d'autres choux, d'autres salades et pas mal de diversité qui vont prendre la place tout doucement des aubergines, des concombres, poivrons et autres tomates. c'est une cuve. Ouais. Donc une cuve tampon, donc on a un forage. Donc la cuve elle a deux fonctions. La première fonction c'est récupérer les eaux pluviales. Et la deuxième fonction c'est de faire un tampon par rapport à l'arrosage de nos cultures en plein champ. Donc on sort de l'eau à 3-4 degrés. Donc en plein été, lorsque vous arrosez à 3-4 degrés des légumes qui sont à 28-30 degrés, donc ça fait un choc thermique, la cuve nous permet d'avoir un tampon et d'avoir une eau à 10-12 degrés.
Il n'y avait rien sur ce terrain-là ?
Il n'y avait rien sur ce terrain, ni CR, ni hangar, ni réseau d'irrigation. On est parti de zéro. J'ai fait choix d'un hangar en bois, voilà, pour l'esthétique, pour que ça puisse s'intégrer bien dans le paysage, parce qu'on est quand même aux portes de Blois. Dans ce bâtiment, ça nous permet de stocker notre matériel, de rentrer le tracteur et aussi de faire la préparation des paniers.
Est-ce que vous pourriez faire sans les serres ?
On pourrait faire. À condition de pas travailler l'hiver. L'hiver, on a besoin de ces serres, hein, donc c'est des serres plastiques, hein, c'est des serres non chauffées. Dans un premier temps, ça nous permet de prolonger les saisons ou d'avancer un peu au printemps, pouvoir faire des produits primeurs. Et l'hiver, ça nous permet d'avoir tous les produits d'hiver, la mâche, l'épinard, roquettes, pourpiers, cressons et autres, qui... Eux ne craignent pas le froid, mais craignent les gelées. Au moins, se prémunir des gelées, donc la serre plus des voiles d'hivernage, nous permet d'avoir quelques produits frais pendant cette période d'hiver. Voilà. Sinon, l'hiver, on ne ferait que des poireaux, des choux et les légumes racines qu'on aurait récoltés et mis en stockage. Les serres nous permettent d'avoir de la verdure. Il y a deux choses avec la verdure, c'est on sait qu'on apporte du frais, puisque la verdure ne se conserve pas éternellement, donc on sait que c'est du frais. Et d'autre part, ça apporte quelque chose en plus dans le panier. Voilà, les gens, on a besoin de cette verdure, que ce soit dans notre alimentation et aussi dans nos paniers. Quoi. Moi, je suis sur une production zéro phyto, donc aucun produit chimique, même autorisé en bio. Donc c'est les volontés insectes qui nous prémunit de nos ravageurs. Pour l'instant, on n'a pas encore eu la mouche du poireau, donc un poireau sain, qui n'a pas eu besoin de voile et ni de traitement quelconque. Donc on aura du bon poireau. L'ensemble de l'exploitation fait 7 hectares.
Ouais.
Et l'idée, c'est d'avoir 3 hectares et demi en culture. Là, aujourd'hui, on a démarré en janvier. Et donc là, on est sur 2 hectares et demi d'ouvert en plein champ, plus 2000 mètres carrés sous les serres. Donc l'année prochaine, on a encore 1 hectare à ouvrir. Et ensuite, le reste va être mis en prairie. Et on va y mettre des moutons, des poules et des ânes. Je lance une petite annonce en même temps. S'il y a des gens qui cherchent un hectare pour pouvoir faire brouter leurs animaux, ce serait le bienvenu. Voilà. On est sur une terre qui était en prairie, donc on a eu très beaux résultats cette année sur les légumes. Et donc cette biomasse qu'on a héritée, je souhaiterais la garder le plus longtemps possible. Et donc il va falloir que je mette en place des rotations. Et en attendant ces rotations, toujours entretenir les prairies justement par des apports de matière organique naturelle entre guillemets, avec des moutons qui broutent, qui défèquent, et puis on fait tourner comme ça. Et ensuite, dans 2 ans, faire des rotations, les parcelles qui étaient en culture, qu'on a mis en culture cette année, et ben dans 2 ans les remettre en prairie et aller sur d'autres parcelles et continuer à créer de la vie dans le sol.
On voit que dans les deux champs, la carotte et épanais, il y a pas mal de... Alors on va appeler ça des mauvaises herbes, mais je ne sais pas si c'est le cas. Il y a de l'herbe, il y a des fleurs, il y a des choses comme ça. Est-ce que ça, c'est pas un problème et comment vous faites pour contrôler ou gérer ça?
Alors, on va contrôler, effectivement. On va contrôler, effectivement, lorsqu'on fait la préparation de sol, etc., on fait en sorte que de ne pas avoir d'herbes folles qui viennent concurrencer nos légumes. Mais une fois que le légume il a fait son développement, on laisse, voilà, il n'y a plus besoin d'être en désherbage à outrance. Donc en plus, nous, le désherbage, on le fait à la main. Donc il y a un moment donné, on dit on a peut-être autre chose à faire qu'aller désherber. Et donc on laisse l'herbe reprendre sa place. Certains de mes collègues ont peur, justement, lorsque ça fait des fleurs, ça fait des graines, et ça se ressème, etc. Et c'est un cycle, mais c'est le cycle de la vie. Et quoi qu'on y fasse, en tout cas en bio, on n'arrivera jamais à bout de l'herbe. Et si jamais on arrive à bout de l'herbe, c'est qu'il y aura un gros problème et qu'on n'a pas compris ce qui se passe dans nos sols. Il y a un moment, on voit très bien que, par exemple pour la carotte, la carotte, elle est sortie de terre, elle commence à se développer, elle est assez grande, on va dire, pour elle-même aller chercher ses besoins. Et donc après, on laisse les adventices faire leur travail de recouvrir le sol. Et ça permet aussi d'accueillir des auxiliaires, ça permet
donc des insectes
etc. qui vont lutter de manière écologique contre les ravageurs c'est un besoin, il y a un besoin d'équilibre, et cet équilibre ne peut pas se faire avec un sol nu, c'est pas possible. L'idée, c'est aussi de travailler la technique pour avoir de moins en moins de travail à faire. Je ne veux pas pour le moment parler de non-travail du sol, de permaculture, mais c'est aller vers des techniques qui permettent d'avoir de la rentabilité sur nos cultures, et d'avoir de moins en moins de travail à faire, que ce soit dans le désherbage, que ce soit dans la récolte, que ce soit dans l'entretien. Il y a un gros travail à faire là-dessus.
Et de la répartition, là, les espèces que vous décidez de cultiver, la quantité, etc. Qu'est-ce qui vous permet de le déterminer, ça?
Alors moi, c'est mon réseau de distribution, de vente, dans un premier temps. Donc comme j'ai décidé d'être en vente directe et sous forme de panier, et mes paniers, je me suis mis une belle petite contrainte, c'est qu'ils soient diversifiés toutes les semaines. Donc en fonction de mes j'établis des prévisions pour l'année, et donc en fonction de mes prévisions, ça me donne cette diversité au champ qu'il faut tenir. Et après, j'ai d'autres réseaux de distribution, mais c'est vraiment les paniers mon guide.
Et pourquoi ce choix de distribution en panier et pas autrement?
La conjoncture la vente directe, faut pas se le cacher, c'est ce qu'il y a de plus rentable. C'est un vilain mot, mais c'est une exploitation, c'est une entreprise, et donc avec des salariés, donc faut qu'elle soit rentable. Et donc la vente directe, c'est le plus rentable, mais c'est aussi le plus gourmand en main d'œuvre. Et notamment dans la récolte, dans la confection des paniers, ensuite dans la gestion des légumes, et ensuite aussi dans mon éthique. Je voulais pas avoir du monolégume sur mon exploitation, donc ça passe par la diversité, et faire de la diversité en grosse quantité, ça devient quasi impossible, puisque derrière il faut aussi avoir des machines, des outils qui vont bien pour pouvoir récolter. Donc des petites diversités et de la vente directe, je pense que c'est un bon cocktail. Bah, après, à Blois, on est quand même dans une petite agglomération. Les places de marché sont déjà bien, bien prises. Et dans mon étude de marché, il faut trois ans. Voilà, il faut 3 ans pour pouvoir bien s'installer, bien se faire connaître. Donc, pourquoi aller me mettre dans une niche où il y a déjà des collègues. Voilà, ça aurait fait un maraîcher de plus. Mais par contre, sous la forme de panier, distribution au pied du bureau ou un point de collecte, eh ben, ça se faisait très peu. Voilà, c'était très peu développé sur Blois, donc j'ai préféré me mettre plus sur un secteur où là, pas tout seul, mais il y a moins de concurrence.
Au niveau de la préparation des paniers, comment ça s'organise du coup? Parce que c'est un moment important, je suppose, dans votre semaine,
très.
En temps de travail et en organisation.
Oui, très, très important. Voilà, on n'est pas en AMAP, donc c'est les salariés qui font les paniers. Les clients nous font confiance sur la qualité des produits. Donc, on a des fiches de prépa, on a des consignes. Derrière ça, j'ai développé, moi, un petit logiciel qui me permet de prendre les commandes des clients et d'avoir des feuilles de prépa, ce qu'on appelle, nous, les feuilles de préparation panier. Et ensuite, pour pouvoir dispatcher les paniers en fonction des clients. Donc, la première phase, elle se fait complètement à l'aveugle. Donc, sans les noms des clients, on a les quantités de produits avec les poids respectés. Donc, les salariés travaillent complètement à l'aveugle sans savoir pour qui ils font les paniers. Et ensuite, à la dernière étape, on vient mettre les différents légumes dans les sacs et on vient agrafer la commande du client.
Puisque les clients peuvent choisir un panier tout prêt composé de différents légumes ou ils peuvent composer leur propre panier ?
Ils font les deux. Donc nous, l'offre, on ne s'est pas limité à faire des paniers préconçus. Donc il y a la base. La base, c'est les paniers préconçus. Donc 4 types de paniers. On s'est basé sur la famille, qui va du panier pour célibataire jusqu'au panier avec 2 adultes, 2 enfants, pour que tout le monde s'y retrouve. Donc avec ces paniers-là, je me suis posé la question, mais les paniers, c'est moi qui les choisis. Donc je choisis les légumes que je mets dans les paniers, mais c'est mon choix. Ça reste mon choix et mon choix n'est pas forcément le choix de tout le monde. Et donc, je me suis dit, dans un premier temps, donnons-leur la possibilité de compléter ce choix. Donc, il y a une liste de légumes qui est diffusée avec la liste des paniers. Et de cette liste de légumes, j'ai dit, je les ai, ces légumes, pourquoi pas dire aux gens, si mon choix ne vous convient pas et le fait de compléter le panier ne vous convient pas, pourquoi pas faire vous-même votre propre panier. Donc avec cette liste de légumes, ils ont le choix de faire eux-mêmes leur propre panier. Voilà.
Je vois que le hangar est aussi équipé d'un magnifique caisson, conteneur, frigorifié, je suppose.
C'est ça.
La frigorification, c'était indispensable.
Indispensable. Indispensable dans la façon que je fonctionne. Je ne peux pas ne pas avoir de chambre froide. Déjà, d'une part, pour pouvoir anticiper sur mes commandes, donc pouvoir récolter certains produits et les mettre en chambre froide, comme la carotte, les navets, la betterave. Ce sont des produits qui tiennent très bien en chambre froide. On ne perd pas en qualité. Et ensuite, lorsque nous, on confectionne les paniers, on est mardi, on confectionne les paniers du mardi après-midi et du mercredi matin. Donc on prend un peu d'avance. Donc les paniers du mercredi vont aller en chambre froide pour pouvoir être livrés mercredi matin, pour garder la fraîcheur. Même si tous nos légumes sont, tous nos légumes, sauf les légumes de conservation, sont récoltés le jour, voire dans la semaine, parce qu'on commence nos récoltes à partir du lundi et on livre des paniers jusqu'au vendredi. Donc là, aujourd'hui, par exemple, ce matin, on a récolté les blettes pour mardi et mercredi. Et mercredi, on récoltera les blettes pour jeudi et vendredi. Les radis, pareil. Les radis sont récoltés en début de semaine pour les paniers de début de semaine. Et après, le mercredi, il y a une deuxième récolte pour les légumes de fin de semaine, des salades, etc. Aujourd'hui, on livre à peu près 150 paniers par semaine, hors vacances scolaires. L'objectif, ce serait de faire entre 200 et 250 paniers. Donc on a la capacité hein, sur 3 hectares et demi, sur 3 hectares et demi, en ayant des techniques de culture assez carré, voilà, on peut sortir, on peut aller jusqu'à 250 paniers, et avec 250 paniers, on paye les charges, donc on paye les traites, des investissements, on paye les salariés, mais on ne fait pas forcément de nouveaux investissements, on ne fait pas forcément, voilà, l'exploitation, on fait tourner l'exploitation. On fait tourner l'exploitation.
Moi j'avais une question par rapport au terrain. Mmh. Comment est-ce que vous êtes arrivé ici ?
C'est grâce à l'agglo. Donc moi je suis passé par la couveuse du lycée horticole. Donc en sortie de couveuse, j'avais quelques pistes qui n'ont pas abouti. Et donc j'ai fait appel à l'agglo, qui elle-même a fait appel à la chambre d'agriculture pour recenser les terrains disponibles en fonction de mes besoins, en fonction de ma demande. Ils m'ont proposé 4 ou 5 terrains, donc sur Blois et sur d'autres communes. Moi je voulais absolument rester dans la première couronne de Blois. Voilà, le choix s'est fait ici à Bas-Rivière. On est aux portes de Blois avec un terrain, on est dans l'île de la Loire, donc avec un terrain sableux parfait pour le maraîchage.
Vous avez parlé de salariés, vous avez créé de l'emploi en ouvrant l'exploitation ?
Oui, c'est clair, et c'était aussi une volonté. Hein. Lorsque je me suis lancé dans ce projet, je ne me suis pas lancé dans ce projet en me disant « je vais travailler tout seul et je vais faire mon petit truc à moi tout seul dans mon coin ». Non, non, c'était prévu dès le début que ça doit être une activité qui crée de l'emploi. Donc l'idée... Ce que j'aimerais à terme, c'est avoir 3 salariés en CDI, le mieux pour eux aussi, hein, pour qu'ils puissent aussi se projeter dans l'avenir. Mais voilà, il y a les charges, il y a pas mal de choses, donc on ne fait que démarrer aujourd'hui, mais on est en progression en termes de nouveaux clients, et donc je pense qu'on va atteindre des objectifs et puis aussi pénaliser ces emplois sur l'exploitation. Parce que passer de saisonnier en saisonnier, donc effectivement les charges sont moindres, mais on perd en savoir. Donc même si le savoir aujourd'hui c'est moi qui l'ai, j'ai envie de transmettre. J'ai envie aussi pas me débarrasser, mais me dire que voilà, j'ai des salariés, ça fait une saison, deux saisons qui sont avec moi, ils connaissent mes techniques, ils savent comment je travaille mon sol, et puis avoir juste à donner les directives et les gens travaillent d'eux-mêmes et ils travaillent de la manière dont j'ai envie qu'il travaille, parce que effectivement le maraîchage, d'une exploitation à une autre, on peut mettre en place différentes techniques et c'est à chacun de s'approprier ces techniques, et je voudrais avoir des salariés qui s'approprient mes techniques et qu'on avance ensemble.
On entend pas mal parler de la question, on va dire, des difficultés des agriculteurs bio, notamment par rapport aux aides. Est-ce que c'est quelque chose qui vous concerne, vous, directement ?
Alors après, les aides, je ne sais pas ce que vous appelez les aides, mais après, effectivement, c'est la PAC, etc., l'aide à la conversion ou au maintien. Moi, en maraîchage, 7 hectares, c'est une petite structure. Donc les aides pour l'instant, en tout cas pour le moment, j'ai pas été les chercher. Pour mon installation, j'ai été chercher des subventions, justement pour les serres, pour le bâtiment, pour du matériel, etc. Au niveau de la région, au niveau de l'Europe, pour pouvoir m'installer. Donc après, effectivement, je vais m'attaquer à ce dossier des aides, mais j'aurais tellement voulu... et je veux, moi mon souhait, c'est que ma production, mon métier me permette de vivre. Moi je viens du milieu du bâtiment et de l'industrie. lorsqu'une société en industrie, lorsqu'on allait installer des machines, eh ben, tout était calculé pour que l'entreprise fasse du bénéfice et gagne sa vie en installant des machines. Et c'est ce que je n'arrivais pas à comprendre, pourquoi là, en agriculture, les gars ils vont élever des vaches, ils vont élever des cochons, ça part à l'abattoir, machin, etc. et qu'ils n'arrivent pas à se sortir un salaire. Et qu'il faut absolument qu'il y ait des aides et pour que les gens puissent vivre de leur métier. Je trouve ça aberrant. Alors après, voilà, je suis dans le métier, je vends, ce sont des légumes, hein, ce sont que des légumes, effectivement, ça a un prix, ça a un coût, etc. Et donc, pour le moment, j'essaie d'équilibrer le tout, hein, effectivement, mes aubergines, je ne vais pas les vendre à prix d'or, malgré que voilà, j'y passe du temps, on y passe du temps entre la récolte, le plant, l'arrosage, etc. Donc chaque rang d'aubergine, chaque kilo d'aubergine, chaque conditionnement d'aubergine a un prix, et j'essaie d'être au plus juste de mon prix pour que lui, le client, s'y retrouve, et que moi aussi je me retrouve derrière. Mais bon, effectivement, il y a des aides qui existent dans différentes filières. Pour l'instant, moi, c'est pas mon but d'aller chercher les aides, mais effectivement, c'est compliqué. C'est très compliqué.
C'est la fin de La Chose Commune de cette semaine. On se retrouve mardi prochain pour parler commerce et distribution responsable. Vous pouvez retrouver l'émission et plus d'informations sur le podcast de l'émission sur studiozef.fr. Et d'ici là, on lâche rien et on agit pour La Chose Commune.